Il y a un petit mot de quatre lettres, le mot « mais », qui est bien présent dans la vie de tout le monde, dans la vie de chacun de nous. Il se trouve partout aujourd'hui et c'est finalement lui qui fait la différence. Cet enfant est très intelligent, mais il est paresseux. Cet homme a une grande fortune, mais son avarice l'empêche de vivre heureux. Tel autre est très sympathique avec ses amis, mais il bat sa femme et ses gosses. C'était un voisin sans histoire, mais finalement c'est un terroriste. Et on pourrait continuer à donner beaucoup d'autres exemples qui montrent qu'il y a partout ce « mais » terrible qui fait la différence. Nous le trouvons également dans une histoire très savoureuse de l'Ancien Testament, celle d'un général qui s'appelait Naaman. Et je vous propose de la découvrir ce matin, si vous ne la connaissez pas. C'est une histoire qui a des choses très importantes à nous dire sur nous-mêmes, sur notre existence et sur le projet de Dieu pour nos vies, pour la vie de chacun de nous. Je vous invite à écouter la lecture dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 17. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 17.
Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant
« Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, la Manna et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?»
Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent
« Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. »
comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant
« Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. »
Élisée répondit
« Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. »
Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors, Naaman dit
« Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de ta terre, de ton pays, juste autant que deux mulets peuvent en emporter. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice, ni communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. »
Merci beaucoup. Voilà donc l'histoire d'un homme qui avait tout pour être heureux. Il avait atteint le sommet de l'hiérarchie militaire de son pays. Et cela se voyait sur ses épaules dorées, n'est-ce pas, de 5 étoiles. Car il était général, le général en chef de l'armée syrienne. En plus de ses galons de général, il était riche. Il suffit de voir le texte pour voir la quantité d'argent et d'or qu'il a pris avec lui pour effectuer ce voyage en Israël. Il était hautement apprécié par le roi de son pays. Tellement apprécié qu'on pourrait imaginer qu'un jour, celui-ci ait décidé d'organiser un défilé militaire pour honorer, pour que le peuple puisse honorer son général. Un défilé militaire sans doute plein d'appareils de faste et de gloire pour permettre au peuple d'ovationner son général préféré, devenu un véritable héros national. Car, nous dit le texte, grâce à lui, le peuple syrien, grâce à ses exploits militaires, le peuple syrien a gagné une victoire contre Israël. Et on peut imaginer notre général donc drapé dans ses beaux habits militaires, couvert de médailles sur son cheval, sans doute le meilleur de sa garnison, entouré de son armée, de ses meilleurs officiers, monté à cheval aussi autour de lui. On pourrait peut-être le voir avancer lentement, doucement, sur l'avenue principale de la capitale de son pays, les Champs-Élysées de Damas, au son d'une fanfare militaire. Et le peuple qui se postait d'un côté et de l'autre, une foule immense d'un côté et de l'autre de la route, brandissant sans doute des drapeaux, des étendards, ovationnait son général. Vive Naaman, vive le vainqueur, vive le héros national. C'était normal que le peuple acclame son général, car grâce à lui, grâce à ses capacités militaires, grâce à son génie, grâce à sa tactique, à sa bravoure, ce général avait réussi à amener son peuple à la victoire. On peut aussi imaginer que dans la foule, il y avait sans doute des gens qui se disaient « Voilà un homme qui a vraiment réussi dans la vie. Un homme qui a réussi dans la vie. Un homme qui n'a plus besoin de rien. Il a tout ce qu'il faut. Il a la renommée, il a l'estime du roi et du peuple. Il a le bien-être matériel. Il a le confort. Que faut-il de plus pour être heureux dans cette vie ? » La réussite de cet homme en faisait rêver plus d'un. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un mais dans la vie de cet homme. C'est que comme dans la vie de n'importe qui, général ou pas général, puissant ou pas puissant, il y avait un mais dans la vie de Naaman. Un mais qui bouleversait tout. Et à cause de ce mais, notre général ne pouvait pas avoir le cœur à la fête. Malgré les ovations de la foule, il avait très probablement les traits tirés, le visage pâle. Peut-être qu'il avait même envie de pleurer, car malgré ses réussites sur le plan militaire et ses plus hautes fonctions dans l'armée, malgré le fait d'être considéré par le roi et par le peuple, malgré l'estime qu'il jouissait partout, malgré les honneurs, la gloire, cet homme avait dans sa vie un mais tragique qui bouleversait tout. Un drame terrible. Il était atteint d'une maladie répugnante et mortelle, la lèpre. Le mais de la lèpre. À quoi bon être quelqu'un dans son pays ? À quoi bon être puissant, avoir toute la renommée, toute la gloire. Si la tragédie s'abat sur vous, à quoi bon être beau, être connu, passer sur tous les écrans de télévision, si dans votre vie, il y a ce mets tragique qui bouleverse tout. On peut imaginer beaucoup de choses autour de cette maladie, de la maladie de ce général. Peut-être le fait que sa femme et ses enfants avaient peur de le toucher et peut-être que sa femme avait même envie de le quitter parce qu'elle savait que cette maladie était très contagieuse. On peut imaginer aussi la honte de cet homme de s'approcher de sa famille et de ses amis parce qu'il savait qu'il pouvait contaminer les autres, il savait qu'il pouvait être connu comme quelqu'un de dangereux à cause de sa maladie. Cette histoire de Naaman, chers amis, nous permet de rappeler ce que la Bible dit. La Bible, parole de Dieu aux hommes, affirme qu'il y a dans la vie de chacun de nous un autre mets encore plus dangereux que le mets de la lèpre. Un mets dont on n'a pas toujours conscience, un mets peut-être qu'on a envie de l'oublier, de le mettre de côté, un mets dont on n'a pas envie d'en parler, n'est-ce pas? La Bible fait une grande place à la lèpre. De longs chapitres, notamment du Lévitique, nous en parlent et nous permettent de comprendre ce qu'était alors la vie de ces gens-là qui étaient atteints de la lèpre. Ils étaient éloignés des personnes saines. Ils étaient obligés à sortir du camp d'Israël, du village. Ils étaient finalement condamnés à une existence marginale, éloignés des autres. Et on sait aussi par les récits bibliques qu'aucune couche de la société n'échappait pas, même les plus hauts dignitaires n'échappaient pas à cette maladie. J'ai pu voir dans des villages en Afrique, en Angola et au Cameroun, des villages de lépreux, les dégâts terribles que cette maladie opère chez les gens. Les pustules infectieuses, l'insensibilité des nerfs périphériques, l'engourdissement progressif, la perte des doigts, du nez, du menton, des doigts. Une maladie vraiment impressionnante et terrible qui plonge ses victimes dans un triste état. Or, dans la Bible, la lèpre est l'image d'une autre maladie, maladie spirituelle que la Bible désigne par le mot péché. Le mot péché. Et elle nous dit que nous sommes tous, vous et moi, atteints de cette maladie, car elle est héréditaire. Elle nous vient de la désobéissance à Dieu de nos ancêtres, Adam et Ève. Notre mets à nous, ce n'est peut-être pas la lèpre, mais c'est le mets du péché. Le mets du péché, c'est à cause du péché que des amitiés se transforment en haine, même les amitiés les plus fortes. C'est à cause du péché que l'amour de deux personnes se transforme en discorde et même en haine. C'est à cause du péché que la paix se transforme en guerre, que la joie se transforme en souffrance et en tristesse, en larmes. C'est à cause du péché que des foyers se brisent pour un oui ou pour un non. C'est à cause du péché qu'il y a des discordes entre frères et sœurs dans les maisons. C'est à cause du péché que des personnes mariées trompent leurs conjoints, que des enfants subissent des maltraitances et des abus. C'est à cause du péché que la pratique de l'amour libre est en vogue de plus en plus parce qu'on ne veut plus prendre d'engagement sérieux. C'est plus facile de se quitter comme ça si les choses ne marchent pas bien. C'est à cause du péché qu'il y a un déferlement de violence partout, que des fanatiques se font exploser au milieu des foules, que des hommes égorgent d'autres hommes, que le racisme fait irruption un peu partout, que l'avortement ne pose plus de problème qu'un petit groupe de personnes, que des individus trichent, volent et exploitent leurs semblables sans vergogne aucune. Qui peut nier l'existence du péché? Qui peut nier l'existence du péché? Le mets du péché est en nous dès notre naissance, telle une lèpre qui se développe petit à petit et qui ne fait que de s'aggraver de jour en jour. Toutes ces choses que je viens de mentionner, j'aurais pu mentionner beaucoup d'autres, sont le résultat de ce mets terrible qui est le péché, ce mets qui est en nous. Et quand la Bible parle du péché, c'est à nous qu'elle s'adresse pour nous dire « Il n'y a pas de juste, pas un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il paraît que dans un jardin public en Angleterre, il y a une affiche qui indique « Venez voir l'animal le plus dangereux au monde. » Et bien sûr, les gens se précipitent pour aller voir l'animal le plus dangereux au monde. Ils pénètrent dans une salle, dans une petite chambre, où ils se retrouvent face à un grand miroir, et au-dessus, voici l'animal le plus dangereux du monde. Alors qu'on pense que l'animal le plus dangereux du monde, les pêcheurs, ce sont les autres, n'est-ce pas? Ce sont les autres, pas moi! Mais la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un seul juste. Car le péché, ce n'est pas uniquement tuer, voler, violer, etc. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et comme disait le philosophe catholique Jean Guiton, le péché, c'est vivre à contre Dieu. Le péché, c'est vivre à contre Dieu. Et quand la Bible parle du péché et des pécheurs, les pécheurs que nous sommes, elle dit que l'issue du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que cela veut dire, l'issue du péché, c'est la mort? Bon, on sait bien, la mort, tout le monde la connaît. Hein? Mais dans la Bible, la mort, c'est l'éloignement de Dieu, la séparation d'avec Dieu. C'est ça la conséquence du péché. À cause de notre état de pécheur, nous sommes condamnés à vivre séparés de Dieu. Et vivre séparé de Dieu, ce n'est pas une vie, ce n'est pas vivre, c'est mourir. Car la vie se trouve en celui qui nous a donné la vie. La vraie vie se trouve dans le Créateur, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé la vie, celui qui est la source de la vie. Sans lui, nous ne vivons pas. L'apôtre Paul dit que nous sommes morts dans nos péchés. Nous vivotons peut-être. Mais nous ne sommes pas en vie, parce que la vie, la vraie vie, se trouve en Dieu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, elle ajoute aussitôt, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus est venu apporter à l'humanité perdue dans ses péchés la vie, la guérison, le salut dont elle a grandement besoin. Au milieu de tous les mets tragiques de nos vies, il y a le mets du salut. Il y a le mets du salut. Revenons un petit peu à cette histoire de Naaman. Regardons les réactions de cet homme. Un jour, il découvre sur son corps une petite tache blanche. 3 jours après, cette tache blanche est toujours là. Et la semaine suivante, elle est encore là et il commence à se faire de vrais soucis parce qu'il essaye par tous les moyens de faire disparaître cette tache blanche sur sa peau. Elle résiste, elle s'agrandit et il commence à se dire, oh là là, c'est quelque chose de très grave. Il va sans doute consulter les plus grands spécialistes de son époque. Et le verdict tombe implacable. C'est la lèpre. Naaman, tu es lépreux. Quelle a été la première réaction de cet homme? La Bible, le texte ne le dit pas. Peut-être qu'il a voulu, dans un premier temps, cacher sa maladie, sa lèpre, pour que personne ne le sache. En tout cas, pas tout de suite, parce qu'il ne pouvait pas garder trop longtemps ce problème. Ça allait se voir un jour ou l'autre. C'était celle-là exactement la réaction de nos ancêtres Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont voulu se cacher, ils ont pris une attitude de façade. Et c'est bien là la preuve que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Parce que nous faisons exactement la même chose. Nous avons nos masques, nos façades, nos attitudes. Nous sommes spécialistes en la matière. Nous cachons nos péchés. On raconte que vers le XIVe siècle, une belle reine de France a lancé une mode, la mode des pendentifs faits d'une chaînette et d'un joyau. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'elle portait ce pendentif pour une raison très précise. C'était pour cacher une verrue. Pour cacher une verrue. On ne voyait que le diamant, pas la verrue. Aujourd'hui, les hommes portent sur eux et en eux-mêmes les verrues du péché. Mais ils font tout pour les cacher. Ils font tout pour les cacher. Ils font tout pour les nier. Même si pour cela, il faut attirer l'attention plutôt sur le péché de l'autre. Parce que quand on attire l'attention sur le péché de l'autre, on se protège. C'est l'autre qui est pécheur. Nous cachons à chaque instant les verrues du péché que nous portons en nous-mêmes. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait après avoir péché. Adam disait à Dieu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Ève disait, c'est la faute du serpent. Les psychologues ont une expression moderne pour dire cela. Ils appellent cela le mécanisme de la projection. Le mécanisme de la projection. Voulez-vous quelques exemples très rapides pour voir comment ce mécanisme se met en marche? Dans le livre des Proverbes, dans la Bible, le paresseux ne veut pas aller travailler. Il reste à la maison, nous dit l'auteur. Et pour justifier sa paresse, vous savez ce qu'il dit? Il y a un lion dehors. Alors qu'il est paresseux, il ne veut pas travailler. Dans la fable d'Ésope, le renard qui n'a pas réussi à attraper les raisins, bien qu'il ait sauté aussi haut que possible pour les attraper, n'est-ce pas? Il se console en disant, les raisins sont verts, ils ne sont pas mûrs. Si Naaman a voulu cacher son état, cela n'a fait que retarder finalement le jour où la lèpre allait devenir visible à tous, parce que c'était une maladie visible. Il était impossible de la cacher plus longtemps. Cela ne sert à rien de cacher notre état réel. Il faut plutôt chercher la guérison. Il faut chercher la guérison. Ce dont Naaman avait besoin, ce n'était pas de cacher sa lèpre, c'était d'en être guéri tout simplement. C'était de chercher la guérison. Nous avons besoin non pas de paraître des gens de bien, de cacher notre péché, mais d'en être délivrés. Et la délivrance est possible. Ou pour utiliser une formulation biblique, d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Si la vie de Naaman était résumée par deux mots, mais lépreux, la vie de chacun de nous est résumé par deux autres mots, mes pécheurs, et la guérison ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Dieu a trouvé la solution. Mais cela nous permet de voir le troisième mais qui change tout, le mais du salut. Le mais du salut. Naaman ne connaissait pas Dieu. Naaman avait sa tête ailleurs. C'était un militaire, il était habitué à faire des projets militaires, à chercher des tactiques pour vaincre les peuples voisins, les ennemis. Mais on voit bien que Dieu pensait à lui. Dieu pensait à lui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons notre tête peut-être ailleurs. Nous pensons à beaucoup de choses, à nos problèmes de la vie de chaque jour, travail, etc., la famille. Mais Dieu pense à chacun de nous. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu pense à vous. Dieu a fait en sorte que vous soyez là ce matin. Dieu pense à chacun de nous. Ça ne sert à rien d'évacuer Dieu dans sa vie, parce qu'un jour ou l'autre, Dieu nous attrape. Et c'est ce que la suite de l'histoire va nous montrer. Elle est très intéressante, car pour rencontrer ce grand personnage syrien, Dieu va se servir d'une petite jeune fille, une petite jeune fille esclave. Une personne qui n'avait même pas de statut social, c'était une chose à l'époque. C'était considéré comme une marchandise. Et Dieu va se servir de cette petite fille pour être son messager auprès du général Naaman. Une fois de plus s'accomplit ce que la Bible affirme lorsqu'elle dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et les choses visibles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous savez, Dieu met souvent à notre disposition des moyens très simples, alors que nous cherchons des choses compliquées dans tous les aspects de la vie, et même en ce qui concerne la foi. Dieu met à notre disposition, Dieu a toujours fait ça, mettre à notre disposition des choses, des moyens très simples. Alors, à quoi bon échafauder des projets compliqués et difficiles si c'est si simple? Si c'est si simple. Comme disait l'Ecclésiaste, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours et nous continuons à chercher beaucoup de détours alors que l'Évangile nous dit que c'est simple, très simple. Et c'est donc cette petite fille esclave qui va mettre le général sur la bonne piste, sur la bonne voie, la voie de la guérison, la voie du salut. Elle connaissait le Dieu vivant et vrai. Elle qui était esclave, elle connaissait le Dieu vivant et vrai. Elle connaissait le prophète Élisée, serviteur de Dieu. Elle savait ce que Dieu pouvait faire dans la vie de son patron, de son maître. Et cette petite fille décide de ne pas garder pour elle ce qu'elle savait de Dieu et de son prophète. Elle décide de partager cela avec sa patronne. Elle ne dira que quelques mots, une petite phrase. « Si mon Seigneur connaissait le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Il le guérirait de sa lèpre. Une seule et courte phrase, mais qui va mettre le général, n'est-ce pas, sur la bonne voie, sur la voie de la vie éternelle, la voie de la guérison. Cette jeune fille était de celles qui pouvaient dire avec le psalmiste au psaume 16, « Dieu est la chance de ma vie. » Dieu est la chance de ma vie. Et Naaman, bientôt, il pourrait dire la même chose, « Dieu est la chance de ma vie. » Naaman pourrait, un peu plus tard, se joindre à cette fille pour dire la même chose. Celui qui a ce privilège de connaître Dieu sait que Dieu fait le nécessaire pour nous guérir de nos péchés, pour nous pardonner, et nous avons vraiment besoin d'être pardonnés. Il sait ce qui s'est passé dans nos vies. Et il sait que comme le fils prodigue, nous pouvons passer de la mort à la vie. Car c'est en Dieu et en son fils Jésus-Christ que nous avons la vie, l'espérance et le salut. Mais revenons à notre général. Il est donc maintenant sur la bonne voie, sur le chemin du salut. Mais là encore, il va commettre quelques erreurs. Et je remarque qu'il y a au moins trois erreurs qu'il commet à ce moment-là. La première, c'est qu'au lieu d'aller directement vers le serviteur de Dieu, le prophète, comme la jeune fille lui avait dit, il est allé se faire écrire une lettre diplomatique, une lettre de recommandation de la part de son roi, n'est-ce pas? Non pas pour le prophète, le serviteur de Dieu, mais pour le roi d'Israël. Au lieu d'aller frapper tout de suite à la bonne porte, il cherche un détour. Il cherche un détour. Mais pourquoi ce détour, Naaman? Pourquoi ce détour? On t'a dit d'aller directement au prophète Élisée. Combien aujourd'hui font exactement la même chose? Au lieu d'aller directement à la source du salut, à Jésus-Christ le Sauveur, ils vont par des chemins, ils prennent des chemins de détour. Et ils vont chercher des intermédiaires et des médiateurs à gauche et à droite. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Mais au lieu d'aller à lui, les gens vont ailleurs. Ils vont ailleurs, ils vont chercher ailleurs des soi-disant intermédiaires. Des personnes, des saints, etc., qui peuvent nous aider à nous approcher de Dieu. Alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre. Sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de doute. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il importe de s'approcher de lui. S'approcher de Jésus seul, car si nous allons frapper à d'autres portes que celles de Jésus-Christ, nous perdons du temps et nous n'avons pas la bonne réponse. nous serons dans notre état. Ceci dit, Naaman était sincère dans sa démarche. Il était sincère, comme souvent nous sommes sincères aussi. Mais la sincérité n'est pas toujours synonyme de vérité, c'est ça le problème. La sincérité ne sauve personne. La Bible ne dit jamais que notre sincérité va nous sauver. Puisque nous sommes sincères, nous serons sauvés. Cette mère de famille qui a servi des champignons empoisonnés à leurs enfants et qui les a tués, elle était sincère, elle est allée recueillir les champignons qu'elle pensait être bons. Mais elle s'est trompée dans sa sincérité. Elle a tué tous ses enfants. La sincérité ne les a pas sauvés. C'est la vérité qui sauve. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il affirme que nul ne vient au Père que par lui. La deuxième erreur qu'il a commise, c'est que, comme il était riche, il a pris beaucoup d'argent avec lui, beaucoup d'or, n'est-ce pas, pour pouvoir acheter la guérison, le salut. C'est normal. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas acheter son salut. Vous connaissez ce que l'apôtre Pierre a dit un jour à un homme qui voulait acheter les dons de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit que ton argent périsse avec toi si tu crois que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. Notre argent ne peut rien faire pour le salut. Sa troisième erreur, c'est son orgueil. Naaman était habitué à donner des ordres. Et bien sûr, comme il était habitué à donner des ordres, il était habitué aussi à ce que les gens les accomplissent tout de suite, sur le coup. Il était habitué à faire des projets, des plans de bataille. Et il a commencé à échafauder aussi des projets pour son salut. Dans sa tête, il s'était dit, voilà, je vais me présenter devant le prophète. Quand il me verra, il sortira de sa maison et il se présentera à moi avec tout le respect dû à mon rang. Je suis un général. Lui, il n'est qu'un prophète. Il n'a même pas d'habit comme moi pour s'habiller, n'est-ce pas? Il va lever une main vers le ciel, passer l'autre sur la partie touchée par la lèpre. Il va faire quelques prières et hop. Je suis sauvé, je suis guéri. Mais contrairement à ce qu'il avait envisagé, le prophète ne prend même pas la peine de recevoir ce haut dignitaire dans sa maison. Il lui fait simplement dire par son garçon de course, « Va plonger cette fois dans le Jourdain et tu guériras de ta lèpre. » Va plonger cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. Quel affront pour un général, n'est-ce pas? Quelle gifle, mais quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il fallait bien ça. Il fallait bien ça pour que cet homme laisse tomber son orgueil. Il est écrit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors furieux, Naaman veut s'en aller, tant son orgueil est blessé. Mais ses serviteurs, plus avisés que lui, lui donnent un conseil judicieux, celui d'obéir tout simplement à ce que le prophète venait de lui dire, à obéir dans l'humilité à ce que le prophète lui a dit de faire. Il fallait qu'il comprenne que le salut, ce n'était pas quelque chose qui lui était dû. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter avec son argent et ses richesses. Ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait recevoir à cause de sa position dans l'armée ou dans son pays, à cause de son grade. C'était un don. Le salut, la guérison, c'est un don, une faveur imméritée. N'est-ce pas vrai que parfois, comme Naaman, nous venons à Dieu avec nos idées aussi préconçues, n'est-ce pas? Nos orgueils. Nous voulons même dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Alors qu'il nous faut tout simplement faire ce qu'il nous dit de faire dans sa parole, car sa parole est la vérité. Naaman a compris son erreur. D'ailleurs, les serviteurs lui ont dit, si Dieu t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait sans doute. Mais Dieu lui demande quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Comme le Seigneur nous demande à chacun de nous quelque chose de très simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Alors Nana a cédé. Il est allé plonger cette fois dans l'eau pleine de boue du Jourdain. Naaman a accepté de se mouiller pour être guéri. De se mouiller pour être guéri. Et c'est là une belle image, n'est-ce pas, de ce que doit être notre foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ est celle qui se mouille pour le Seigneur. Celle qui n'a pas honte de s'humilier et d'avoir une attitude de petit enfant. D'ailleurs, le Christ l'a dit, il faut être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Se convertir à Jésus-Christ, croire en lui, c'est se mouiller pour lui. Que faut-il pour être sauvé? La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est trop simple, c'est pas crédible, mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples, c'est ce que les apôtres nous ont transmis. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il nous faut croire. La foi dans la Bible est la condition sine qua non pour le salut. C'est la condition indispensable pour accepter le salut. Dans l'Évangile, selon Jean, nous lisons ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que le Seigneur nous demande à chacun de nous, c'est de nous plonger dans la foi. Nous plonger dans la foi de son œuvre, de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Une minute avant de descendre dans l'eau, Naaman, lépreux, était découragé, déprimé, perdu, condamné. Il sort de l'eau et il constate qu'il est guéri. Cette tache blanche n'est plus sur sa peau. Quel soulagement, quel bonheur, quelle joie. Il a cru en Dieu. Il a cru à ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Et il l'a fait comme un petit enfant. Il a fait simplement ce qu'on lui a demandé de faire. Et il a été guéri. Et on peut voir, on pourrait continuer à examiner cette histoire et voir qu'il y a eu vraiment une conversion morale, une volte-face extraordinaire dans la vie de cet homme, parce qu'au début, il n'aimait ni la terre d'Israël, ni le Jourdain, ni le prophète. Et à la fin, il a demandé au prophète de prendre un peu de terre, n'est-ce pas, d'Israël pour amener avec lui, parce qu'il ne voulait plus faire des autels à d'autres dieux qu'au Dieu d'Israël. Voilà une guérison physique et une guérison de son cœur. Il s'est tourné vers Dieu. J'aimerais terminer en vous disant que nous ne pouvons rien faire nous-mêmes pour notre salut. Notre argent, notre sincérité, notre statut social, nos capacités, et que sais-je encore, rien de ces choses-là ne peuvent rien faire pour notre salut. C'est par la foi que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ à nos vies, et là, oui, nous serons sauvés. Voulez-vous que Dieu vous guérisse ce matin de cette lèpre terrible qu'est le péché? Acceptez le Christ comme Seigneur et comme Sauveur de votre vie. Acceptez ce mais du salut dans votre vie. Et c'est ce mais-là qui va faire la différence, parce que ce mais du salut va complètement bouleverser votre vie. Je vous invite à incliner nos têtes dans la prière. Recueillons-nous quelques instants et demandons au Seigneur tout simplement ceci. Seigneur, je reconnais ma lèpre morale. Je reconnais être pécheur, comme tu le dis dans ta parole. Comme ce général, je me suis maintes fois égaré dans mes pensées et je te demande pardon, Seigneur. Je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour me sauver, pour sauver l'humanité. Et ce matin, je veux croire en lui comme un petit enfant. Je veux te faire confiance. Je veux plonger dans tes promesses de pardon et de salut. Et je veux te recevoir dans ma vie. Parce que c'est en toi qui est la vie. C'est en toi que nous avons la vie éternelle. Je veux, Seigneur, faire confiance à tes promesses. Je veux croire que ce que tu dis dans ta parole est vrai. Et merci Seigneur pour le salut que tu me donnes. Amen.